foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Abderrahmane Oumachar, vous êtes médiateur social et interculturel, membre du GAIC, le groupement d'amitié islamo-chrétien, et fondateur du Centre toulousain de la spiritualité musulmane. Merci beaucoup de venir ici à Radio Présence, dans notre radio chrétienne, pour nous parler de la prière.
Pas que, mais...
Pas que, non, de vos convictions de la foi, comment la prière permet de s'engager dans la société. Mais d'abord, j'aime bien demander, vous venez d'où? Vous êtes né au Maroc et vous êtes venu à 25 ans, 24 ans ici à Toulouse pour des études de psychologue et d'animateur.
Donc, bonjour Benoît, bonjour aux auditeurs de Radio Présence. Oui, effectivement, je voudrais commencer par vous remercier pour cette invitation. Oui, préciser qu'effectivement, je suis arrivé en France à l'âge de 24 ans pour, dans le cadre de mes études universitaires. Et donc, jusqu'à 24 ans, j'ai vécu effectivement au Maroc. Voilà.
Dans une éducation tout à fait à l'école publique, mais d'une famille profondément croyante et pratiquante.
Donc je suis issu d'une famille d'origine berbère au Maroc. C'est un peu la composante majoritaire un peu au Maroc. Donc avec une éducation tout à fait un peu traditionnelle, avec des parents qui sont dans une forme de piété un peu traditionnelle, classique. Voilà, je suis né dans la société marocaine assez marquée par une forme d'ouverture et par une sorte de piété aussi, de présence du religieux, d'une manière un peu tout à fait normale, tout à fait.
Sauf que le changement de pays, la culture universitaire peut-être permet à certains moments ou impose de relativiser certaines croyances ou de les approfondir d'une autre manière.
Personnellement, à partir de l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans, je me suis commencé un peu à me poser des questions où j'avais commencé un peu à être dans une forme de quête spirituelle, d'approfondissement un peu de ma spiritualité, de l'interroger, et j'ai eu la chance un peu de rencontrer un enseignement un peu spirituel qui m'a un peu renvoyé sur un peu la vérité de l'islam comme une quête de Dieu, comme une quête morale et spirituelle qui nous pousse à ne pas se contenter un peu d'être dans une pratique un peu superficielle, mais d'être dans une quête et dans une dynamique un peu de cheminement. Et c'est un changement de perspective qui est radical et qui est qualitativement très différent. Donc du coup, j'ai eu cette chance-là de commencer un peu ce cheminement et qui ne s'arrête pas en réalité. Donc on le fait que l'approfondir. Mais du coup, cet aspect-là, je pense, à un certain moment, ça m'a immunisé contre toute dérive un peu extrémiste. Donc, j'ai appris à ne plus questionner la foi des autres, mais à toujours être dans une démarche un peu qui questionne ma propre foi, ma propre pratique, ma propre relation à Dieu,
au-delà
du rite. Spiritualité, exactement, oui.
Au-delà du rite, une ouverture à la spiritualité. Et on dit parfois que l'islam, c'est ceux qui sont soumis, mais nous avions évoqué sans soumission.
Oui, je pense que la traduction, elle est toujours une trahison quelque part. Et donc du coup, je n'aime pas le mot soumission qui est généralement choisi pour traduire le mot islam. Islam, je pense, pour moi, c'est une adhésion. C'est un cheminement, c'est une décision d'aller vers Dieu et d'aller vers une quête de soi, une quête d'une forme de présence à Dieu, d'une une quête de sacralité un peu de notre vie, un refus aussi de subir un peu une existence démunie de sens.
Comme les chrétiens diront dans le Notre Père, sans doute, une certaine obéissance à Dieu le Père, que ta volonté soit faite.
L'obéissance, je pense que c'est plus approprié parce qu'il y a quelque part une démarche, un peu une adhésion et une dynamique un peu personnelle.
Choisir le juste choix. Milieu, on va dire, dans certains courants de l'islam, le juste milieu.
Je pense
qui
que
soit...
possibilités de dérive existent dans toutes les religions. Je pense que toute religiosité, elle porte en elle un risque de...
De sclérose, exactement, ou d'engagement, et d'être où on veut être plus pur que les autres, n'est-ce
exactement.
Pas
Exactement. Et du coup, je pense que c'est là la qualité du compagnonnage qui, à un certain moment, va jouer, va nous... la qualité de nos rencontres, la qualité de nos lectures, qui va à un certain moment nous... Et aussi, je pense, quelque part aussi, nos tempéraments. Il y a quelque part des tempéraments qui sont quelque part prédisposés à être dans une forme un peu de pratique un peu superficielle, voire extrémiste, etc.
Alors, le travail à l'université vous donne une compétence pour vous orienter vers ce métier de médiateur socioculturel. Et même d'ailleurs d'autres travaux que vous allez continuer par la suite, d'une maîtrise, d'une habilitation à la formation, à la fraternité et à la laïcité.
Alors, je suis médiateur social et interculturel, et pour ça, j'avais passé un diplôme avec une structure ici à Toulouse qui est spécialisée, COFRIMI, qui est spécialiste sur. Un organisme de formation spécialisé sur des questions de l'interculturalité un peu en général et de la médiation sociale. Et donc c'était une formation assez intéressante qui m'a un peu donné des outils pour m'ouvrir à ces enjeux de l'interculturalité, aux enjeux de la communication interculturelle, à ce qui va à un certain moment venir effacer cette dynamique de communication.
La fraternité ou le dialogue.
Et exactement. Et donc, du coup, nous avons besoin, à un certain moment, d'avoir des outils pour être en capacité de décentrage, pour être en capacité d'écoute de l'autre, une écoute attentive, profonde, etc.
Et c'est particulièrement difficile, je crois, dans les quartiers où vous travaillez, des quartiers qu'on dit prioritaires, d'autres disent quartiers sensibles, d'autres disent les territoires perdus de la République, à côté de Toulouse. Mais il y a des problèmes à résoudre.
C'est vrai que c'est la
réalité. Sans avoir peur.
Exactement. La réalité des quartiers prioritaires, de la politique de la ville, pour reprendre un peu la terminologie un peu consacrée. Ce sont, je pense qu'il faut sortir un peu de cette vision un peu fantasmée.
Les clichés.
Et les clichés, etc. C'est une réalité très complexe, certes. Il y a beaucoup une dynamique très positive, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je suis dans un quartier où il y a un conseil citoyen, des habitants qui sont engagés pour faire proposer des choses à d'autres habitants. Il y a des associations qui sont engagées, qui proposent pas mal de choses, qui sont engagées pour le vivre ensemble, pour créer du lien. Il y a des professionnels du social et qui consacrent beaucoup d'énergie un peu pour rendre ces quartiers un peu, malgré les difficultés socio-économiques, pour rendre la réalité beaucoup plus sereine. Et voilà,
des quartiers où il fait bon vivre malgré des tensions qui peuvent exister entre les groupes. Mais ça veut dire le sport, ça veut dire la musique et
ça veut dire
la culture. Et vous avez choisi alors une musique qui à la fois fait l'éloge du prophète mais qui nous rappelle le moment un peu idéal de Grenade.
Exactement, c'est une période assez intéressante.
Eh bien, nous l'écoutons.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et Abderrahmane Oumachar, vous êtes médiateur social et interculturel et vous êtes initiateur du Centre toulousain de la spiritualité musulmane. Justement, cette musique qui fait l'éloge du prophète, elle est multiculturelle. Il y a des compositeurs anglais, espagnols...
Marocains, de l'Amérique latine aussi. Donc j'aime bien cette... ce travail-là artistique, parce que pour moi, c'est parfaitement dans le sens un peu de mon engagement, à savoir développer une pratique spirituelle, en l'occurrence islamique, complètement intégrée dans notre contexte un peu occidental. C'est un travail extrêmement intéressant. C'est une dynamique aujourd'hui qui a peut-être plusieurs décennies, plusieurs années, qui malheureusement ne se manifeste pas forcément dans la réalité médiatique. Je pense que c'est une réalité assez occultée, pas suffisamment mise en valeur. En tout cas, c'est le sens un peu de mon engagement, le travail qu'on essaie d'initier avec le Centre toulousain de la spiritualité musulmane. Donc, développer une pratique spirituelle enracinée dans son contexte culturel, occidental, français, etc.
C'est aussi ce que vous étiez venu nous dire lors des réunions du groupe d'amitié islamo-chrétien. D'abord sur le thème de la générosité dans nos deux cultures, dans nos deux religions. Et puis dernièrement, l'année dernière, sur l'importance de la prière dans l'islam. Alors il y avait bien sûr une des responsables du catholicisme qui nous avait évoqué les prières que l'on fait à notre Père, à Marie, et ces moments de silence et de spiritualité. Et vous avez évoqué comment ces moments de pause sont indispensables. Alors bien sûr, on dit souvent de manière caricaturale, mais ces cinq moments de la journée, c'est très sclérosé ou c'est très figé, mais nous savons aussi l'importance pour les moines de ces moments de silence à temps prévu dans la journée, où on peut arrêter dans l'instant la tâche que l'on fait parce que Dieu est plus important que tout, ou bien de dire ben non, j'ai pas prié à 9h du matin parce que je devais prendre l'avion ou le bus, mais je peux décaler, comme ceux qui disent les livres des heures.
Je pense que nous avons, pour celui qui a la chance un peu d'être dans une pratique un peu approfondie de sa foi, Ce sont des cinq moments, des cinq pauses, cinq mini-retraites dans la journée et dans la nuit un peu pour qui viennent nous soustraire un temps un peu économique et un temps un peu utile et immatériel quelque part pour nous sortir de ce temps-là et nous faire rentrer dans un temps de la sacralité, un temps de la méditation, un temps pour se reconnecter à Dieu, se reconnecter à nous-mêmes, se questionner un peu le sens un peu de notre existence un peu.
La gratuité aussi.
Exactement. Et donc du coup, c'est un acte spirituel par excellence. La prière, c'est le lien qui nous lie à Dieu. Et en même temps, je pense que c'est un acte de résistance parce qu'à un certain moment, on dit voilà, nous ne sommes pas que des objets. C'est pas l'homo economicus, mais c'est aussi l'homme préoccupé par des questions existentielles.
Sa tâche, son métier. Mais vous êtes père de famille.
Je suis père de famille, exactement.
Et vous avez choisi un beau prénom, double, alors, pour votre fils, 3 ans et demi.
Alors, mon fils, il s'appelle Idriss Amadeus. Idriss, c'est une figure prophétique qui renvoie à Enoch dans la tradition un peu biblique chrétienne.
Judéo-chrétienne, oui. Enoch, le prophète.
Exactement. Et Amadeus, c'est celui qui est aimé par Dieu ou celui qui aime Dieu.
De grand musicien aussi.
Exactement. Et donc, il y a pas mal de références.
On lui souhaite longue vie et puis une carrière tout en musique.
Et c'est toujours ce même souci pour moi. Donc voilà, donc mon fils, il est aussi enfant de son temps et l'enfant de ce contexte-là. Et donc, je voulais aussi qu'il soit à l'aise dans sa pluralité de ces identités.
Vous parliez de la prière personnelle au jour, chaque jour, mais il y a aussi la prière du vendredi, prier en église, dans la communauté. Alors vous me disiez, ah ben oui, mais moi je ne fais pas partie forcément d'une confrérie. On dit, ah oui, mais il y a les soufis. Alors pour nos auditeurs, peut-être c'est peut-être un peu compliqué, le soufisme en tant que tradition en partie mystique qui s'oriente de la Turquie ou qui va vers les derviches tourneurs, mais bien au-delà.
Les origines profondes du soufisme, ce sont qui remontent à l'origine même de l'islam. Parce que l'islam, c'est... Ce sont ceux qui se sont spécialisés dans cette recherche un peu spirituelle et dans le fait d'écrire un peu sur cette quête spirituelle. Traditionnellement, historiquement, ils ont été nommés, ils ont pris le nom de soufis. Mais en réalité, le soufisme, c'est pas une branche de l'islam. Le soufisme, c'est une composante un peu tout à fait intégrée à la pratique un peu du musulman. C'est-à-dire qu'on va dans le historiquement, traditionnellement, on va trouver un théologien qui est affilié à une école jurisprudentielle dans la façon d'interpréter la loi. Et en même temps, il est aussi affilié à une école dogmatique, un courant dogmatique dont on va trouver les Ash'arites, etc., dans la façon d'interpréter les fondements de la foi, et aussi on va le trouver dans une quête spirituelle mystique, et donc ce qu'on va appeler un peu les soufis ou le soufisme. Donc il aura à la fois un maître spirituel, il aura aussi un maître de pensée dans le fiqh,
l'école juridique,
dans le droit, etc.
Et trilogie, un courant dogmatique.
Exactement.
Donc on est loin de la simplification que font souvent les médias. Et cela rejaillit sur les formes de l'alimentation, du vêtement, où on est de nouveau très libre en théorie, sauf dans certains quartiers qui imposent peut-être certaines rigueurs, ou on va dire les territoires perdus de la République. Pour vous, la laïcité ?
Alors, la laïcité, je pense, c'est une belle invention, entre guillemets, française, qui, en tout cas, la loi 1905, c'est un bon compromis que les Français, à un certain moment, ont trouvé dans un contexte très tendu pour apaiser un peu la relation entre religion et conviction et aussi espace public et la façon avec laquelle on gère la chose publique. Donc, du coup, il y a respect de la conscience privée, liberté de conscience respectée, en même temps une préservation un peu de l'État et de l'espace public pour qu'il soit à la fois un espace d'expression un peu religieuse qui est tout à fait respecté, en même temps un espace qui préserve aussi le vivre ensemble et qui ne permet pas une instrumentalisation de certaines convictions pour opprimer d'autres personnes. Donc du coup, je pense que c'est un compromis extrêmement intelligent qu'il s'agit aujourd'hui de préserver. Je déplore aujourd'hui cette volonté un peu de toujours réinterpréter la loi de la laïcité pour en faire un instrument d'exclusion. Je pense que c'est une dérive un peu extrêmement dangereuse.
Comme toute lutte pour vouloir convertir les autres à ses propres valeurs. Alors, souvent, puisque nous devons bientôt terminer cet entretien, mais vous disiez que il faut voir certains hadiths qui nous disent l'importance de la prière commune et du fait que l'on peut peut-être ou sans doute s'ouvrir vers l'autre, vers la grande transcendance. Et j'aime bien cet hadith que vous avez apporté. Chaque fois que les gens se réunissent dans l'une des maisons de Dieu pour réciter la parole de Dieu et en faire un objet de méditation et discussion, chaque fois la paix du cœur descend sur eux. L'amour les enveloppe, les anges les entourent et Dieu les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. C'est tout un programme et c'est ce que vous vivez, je crois, à la fois lors des rencontres dans le groupe d'amitié islamo-chrétien. Vous avez apporté aussi d'autres auteurs que vous voulez faire partager à nos amis auditeurs.
Et c'est vrai, je pense que ce hadith, ça veut dire une tradition prophétique, un propos du prophète, qui nous met vraiment dans le cœur un peu de la religion, à savoir que la religion, en tout cas l'islam, c'est vraiment ce message d'amour. L'amour un peu qu'on développe un peu en soi, qu'on essaie un peu d'acquérir, et à un certain moment qu'on essaie aussi de transmettre.
Même quand l'islam n'est pas est minoritaire dans un contexte ou dans un environnement parfois peu porteur.
L'islam, pour moi, c'est juste cette discipline un peu spirituelle qui nous permet un peu d'être la meilleure version de nous-mêmes.
De chercher le bonheur.
Et de chercher le bonheur, de chercher Dieu, de chercher le lien avec les autres, de chercher... Et pour moi, la qualité de la relation à Dieu, elle doit se traduire dans la qualité de la relation aux autres, à nos semblables, et au-delà, dans la tradition du prophète, dans le comportement du prophète, on voyait ce rapport qu'il avait de grande miséricorde, de grande tendresse, y compris avec les animaux, y compris avec avec la nature. Donc on voyait il y a des traditions un peu prophétiques qui nous rappellent un peu une discussion, une sorte de dialogue que le prophète avait avec la lune, avec la montagne, et qu'il déclarait qu'il aimait une montagne. Il avait une montagne un peu qui était là, aux périphéries de la Mecque, et qu'il disait que c'est une montagne que nous aimons. Donc il a poussé très loin ce rapport un peu de générosité, de miséricorde, de paix. Et malheureusement, ce n'est pas le message un peu qui vient à l'esprit aujourd'hui, spontanément, quand on aborde l'islam. Malheureusement, après, c'est tout le sens aujourd'hui de... Je te remercie pour cette émission parce que justement, il s'agit d'apporter la connaissance pour ne pas être dans la peur.
Ne pas importer des conflits qui viennent d'autres époques ou d'autres continents ou d'autres cultures, tout en sachant que nous vivons dans un monde uni, globalisé, et bon, où nous avons à faire notre part, apporter notre participation.
Bah, exactement, je pense qu'il faut qu'on... C'est pas évident, en fait, y compris pour les musulmans, y compris pour n'importe quel croyant, qu'il soit dans une pratique un peu lucide, dans un monde très, très agité. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il s'agit aujourd'hui de se soustraire d'une actualité assez tendue pour être dans la quiétude, dans la paix. Et ce n'est que... par un travail spirituel approfondi qu'on peut avoir cette sérénité pour aborder le monde d'une manière sereine, non pas pour être dans la passivité, mais pour justement être dans une... pour agir en paix, agir avec un élan d'amour et résister en paix à ce monde un peu de violence aujourd'hui et d'ignorance.
L'ignorance, elle est aussi parfois contredite par certaines émissions à France Culture ou, je pense, l'émission d'Antenne 2 le dimanche matin sur la connaissance de l'islam. En tout cas, merci Abderrahmane de cet entretien et on va espérer aux auditeurs une meilleure connaissance de nos traditions spirituelles. J'ai pas parlé, je ne vous ai pas parlé, demandé de parler du Coran ou de la Bible comme texte révélé ou texte sacré, mais je pense que ce sera l'occasion d'une autre rencontre. Merci aussi à Christophe pour la réalisation de cette émission.
Merci à vous et à bientôt, j'espère.
À bientôt.